France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Pardon, darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va pas se mentir, les vœux en ont pris un coup cette année. Sur quel ton faudrait-il se souhaiter la belle et bonne année ? Et me croirez-vous si je vous promets un monde plus sûr, plus juste et plus généreux? Je songeais à cela en lisant le beau récit que les éditions Verdier viennent de faire paraître, en le traduisant du russe, les marches de Kandinsky. Ces marches, ce sont celles d'un souvenir d'enfance qui remonte à la surface au moment où il tente de comprendre ce qu'il a fait peindre. Kandinsky est en Italie et tout est noir. Les marches d'un escalier plongent dans l'eau noire, et sur l'eau, une longue barque noire, effrayante, avec une caisse noire en son milieu. Quel degré remonter pour échapper à tout ce noir ? En 1911, Kandinsky est devant l'une de ses toiles, tableau avec un cercle. Le noir est là, mais cantonné, et partout les couleurs chantent en se séparant des objets. Tout cela fait une géométrie sonore qui s'éloigne de la Terre au point que l'on ne sait plus comment la nommer, ni si l'on se trouve face à l'immensité ou au minuscule. Une seule chose est certaine, au dos de la peinture figure cette inscription de la main du peintre, le premier tableau abstrait. Nous avons rendez-vous avec ce moment. Parce qu'il faut nous demander si s'abstraire du monde, c'est renoncer à la responsabilité morale. Et comment conjuguer l'aspiration personnelle à la joie d'un art absolument éperdu de beauté et la nécessité de l'engagement politique. Est-ce pour cela que Kandinsky se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir ? Allons-y voir. Allons-y voir avec Angela Lampe et Olga Medvedkova, bientôt rejointes par notre sociétaire du jour, Pierre Saint-Garavello.
La rétrospective Kandinsky, lequel naquit à Moscou en 1866, vécut surtout en Allemagne et en France et mourut en 1944. Kandinsky est considéré comme le père de l'art abstrait. Nous sommes au début de ce siècle. Claude Monet, au dire de Kandinsky, influença de manière décisive son œuvre. Voici des œuvres de Kandinsky d'avant 1910. Voici une œuvre de 1911. Kandinsky, que voici, allait devenir le promoteur de la peinture abstraite.
Ça, au moins, c'est clair et net. C'était en avril 1963, l'ouverture de l'exposition du Musée national d'art moderne de Paris. Mais justement, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec bien d'autres et belles expositions. On va en parler avec vous, Olga Medvedkova. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l'architecture classique, aussi de l'art russe au 19e siècle. De l'art, hein, pas de l'âme russe. Je me souviens d'un de vos textes sur l'exposition Ilia Repine, où vous agaciez de son sous-titre « Peindre l'âme russe », l'âme non, mais l'invisible. Oui, vous avez beaucoup écrit sur Kandinsky, le peintre de l'invisible, cette fois-ci. Je cite le titre d'un de vos livres paru en 2009, et vous avez traduit et édité ses écrits aux presses du réel, c'était 2014, je crois. Et c'est aussi l'histoire d'une conversion d'un chercheur en sciences humaines en artiste que vous écrivez dans votre très belle biographie monumentale, parue en 2025 chez Flammarion, Kandinsky, corps et âme. C'est quelque chose quand même pour une historienne de l'art comme vous de passer au geste biographique, parce que là, c'est vraiment l'homme que vous saisissez dans sa carrière et on va le voir aussi dans sa conversion. C'est tout à fait étonnant.
Oui, j'aime beaucoup le genre biographique. Évidemment, on a la possibilité de le prendre au sérieux et le traiter en historienne sérieuse.
C'est-à-dire avec des sources, avec des
exactement,
lettres.
Exactement, en appuyant ce parcours sur une nouvelle compréhension, une nouvelle lecture d'un tout un ensemble de sources, en tout cas inédites pour une partie en français.
Merci. Bonjour, Angela Lampe.
Bonjour.
Vous êtes aussi historienne de l'art, conservatrice des collections d'art moderne au Centre Pompidou. Vous avez été commissaire de quelques expositions mémorables sur Delaunay, Chagall, les avant-gardes russes, mais aussi Vue d'en haut au Centre Pompidou-Metz, dont nous avions parlé dans cette émission. Aujourd'hui, Beaubourg n'est plus à Beaubourg, mais vous organisez toujours des expositions sur Kandinsky, la musique des couleurs, à la Philharmonie de Paris, très beau catalogue aussi que vous avez coédité. On va en parler, c'est jusqu'au 1er février, on peut aller le voir. Et Kandinsky face aux images, ça, on pourra aller le voir à partir du 20 février et jusqu'au 14 juin au musée de Lille Métropole, le LAM, à Villeneuve-d'Ascq. Lui, c'est, il rouvrira ses portes dans des bâtiments rénovés. On prend Kandinsky d'un côté avec la musique, on va en parler, et de l'autre, on va aussi en parler, bientôt à Villeneuve-d'Ascq, avec sa culture visuelle, c'est-à-dire en fait dans tout son univers de création.
Exact, donc c'est vraiment une heureuse coïncidence de pouvoir organiser ces deux expositions sur le même artiste, mais avec un angle différent, donc ce qui montre vraiment la l'attitude de Kandinsky et la richesse de son œuvre. Et ça montre aussi que chaque angle est finalement toujours un extrait, c'est une focalisation, mais c'est pas du tout une lecture exhaustive. Donc alors, c'est ce qui est aussi un exercice en histoire de l'art. Si
exactement, alors commençons justement par cette année 1911, hein, on va pas être trop radicalement incisif, mais enfin, on va quand même essayer de comprendre la bascule. Il y a un tableau qui le donne à voir très clairement, qui le donne, j'allais dire, à entendre, puisqu'on va parler de la couleur de la musique. C'est sur la couverture, justement, de votre catalogue. C'est impression numéro 3, 1911, après le concert. Tenez, je vous donne la reproduction. Qu'est-ce que vous voyez, Angela Lampe?
On voit une image des mémoires, c'est un peu dilué, c'est un peu fantomatique, et le titre donne le contexte, donc c'est l'impression d'un concert, le sous-titre c'est concert, et en effet on voit une scène de concert, parce qu'on voit sur la droite un triangle noir qui pourrait évoquer un piano à queue ouvert. On voit à gauche donc le public, des personnes rassemblées autour de cette piano. On voit aussi une sorte de lustre au-dessus d'une estrade comme ça, jette une lumière verticale, donc dans une verticale blanche, qui dédoublée sur la droite avec une deuxième verticale blanche. Donc, ce qui nous amène vraiment à la composition chromatique de cette œuvre, donc qui est vraiment dominé par la tension de deux masses colorées, donc une masse noire, une masse jaune, et cette grande masse jaune qui est aussi un peu triangulaire, on semble comme si c'était vraiment inonde cette composition par la droite, comme c'est vraiment une sorte de d'effluve de ces pianos, et on peut voilà, ici on a vraiment l'évocation de la sensation visuelle que Kandinsky avait eue lors de ce concert qui est à l'origine du tableau, dont on connaît tout le contexte.
Et oui, on en connaît tout le contexte.
Grâce à la correspondance de Kandinsky avec Franz Marc, avec Arnold Schoenberg, donc ce qui est le compositeur que Kandinsky écoute à ces moments-là, le 2 janvier 1911.
Regarde Medvedkova, justement, on connaît tout le contexte, et vous, ça vous intéresse comme biographe, pas seulement. Il y a une très belle page dans votre livre Kandinsky, corps et âme, où vous décrivez aussi, j'avais fait le choix de partir du noir, et là, le noir du tableau, il s'évanouit ou il se sublime au fond, et vous montrez comment il appelle la couleur de ce qui est évoqué au fond, hein, c'est-à-dire le public du concert qui, comme des flammes, dites-vous, vont vers le ciel.
Oui, on connaît très bien ce contexte de cette soirée où avec ses amis Alexis Javlinsky, Marianne Verovkine, son très grande amie Hartmann, compositeur, et sa femme la chanteuse Olga Hartmann, ils vont tous, et évidemment la compagne de Kandinsky, Gabriele Münter, ils vont tous ensemble écouter ce compositeur qu'ils ne connaissent pas encore, et ils vont être absolument dépassés en quelque sorte d'émotion. Ils vont ressentir quelque chose tous, mais Kandinsky le décrit comme souvent, c'est lui qui écrit, c'est lui qui formule. Il dit que la musique l'a complètement transfiguré. Voilà, et c'est ce que le tableau en fait représente.
Alors cette musique, écoutez, c'est celle-là. Arnold Schoenberg, les Quatuors à cordes numéro 1 en ré mineur, opus 7. Pourquoi cette musique particulièrement? Qu'est-ce qui est au fond l'appel spécifiquement?
Je pense que Kandinsky, il le dit d'ailleurs, on est toujours, avec Kandinsky, on est face à quelqu'un qui crée de manière spontanée, qui est une personne hypersensible, mais qui en même temps constamment réfléchit et décrit ce qu'il éprouve, oui, et ce qu'il fait. Il est double et il ne renonce jamais à cette duplicité. Et un peu le mot d'ordre de sa vie, c'est « et non pas « ou ». Donc il, c'est aussi un intellectuel qui est formé par la dialectique.
Alors on va en parler effectivement, voilà, de cette formation intellectuelle.
Voilà, et c'est pour ça que on a presque une possibilité extraordinaire. On a presque le sentiment qu'on peut parler, on discute avec Kandinsky, tellement il a décrit précisément avec une belle intelligence. Il a décrit ce qu'il éprouve, et donc il nous raconte ce qu'il inonde dans cette musique.
Et ce qu'il inonde dans cette musique, Angela Lampe. Alors effectivement, l'exposition de la Philharmonie commence par l'appel de la musique, la certitude, au fond la révélation, l'épiphanie pour Kandinsky, qu'on peut peindre musicalement, qu'il y a effectivement une rythmique des couleurs. Alors ça commence plutôt avec Wagner. Pour lui, effectivement, c'est Wagner qui le premier l'emporte.
Bah, c'est un qu'il écrit dans ses récits, donc Le Marche,
notamment Les Marches, oui.
Dans la version originale allemand du Rückblick, Le Regard sur le passé. Donc, il décrit justement ces moments initiatiques, on peut dire, c'est une sorte d'épiphanie presque, quand il assiste à une représentation de l'opéra Lohengrin de Wagner à Moscou en 1996, si mes souvenirs sont bons. Et il décrit comment il voit des couleurs bigarrées, toute forme, toute une danse de forme devant ses yeux. Et donc, qui vraiment ressent physiquement ce pouvoir évocateur de la musique. Et à partir de là, en effet, la musique devient pour lui vraiment une espèce une modèle, un modèle de pensée. C'est la musique en tant qu'art abstrait par nature devient pour lui vraiment une sorte d'argument ou d'allégorie presque pour avancer dans ce cheminement vers l'abstraction.
Alors, Regard sur le passé, c'est effectivement le premier titre en fait du livre qui, comme son nom l'indique, est une rétrospective de son propre art qui a été écrit en allemand, et puis ensuite il l'a auto-traduit en russe, et c'est la traduction russe de ce texte qui s'appelle Les Marches, très belle traduction par Catherine Perel qui vient de sortir chez Verdier. Et il décrit effectivement une sorte de révélation par Wagner, par Rembrandt et par Monet.
Par Monet aussi. Oui, oui, par un tableau qu'il a vu une meule de foin. Il l'a vu dans une exposition d'art impressionniste. Et là aussi, il voit à quel point les couleurs, les lignes commencent à s'émanciper, commencent à se diluer. Et l'effort, la puissance est autant et plus fort grâce justement à cette langage plus abstrait, moins naturaliste.
Alors quand on dit, voilà, la musique des couleurs, c'est-à-dire toute cette magnifique composition qui anime l'exposition de la Philharmonie de Paris, on se dit, ok, c'est une manière de dire, une manière de métaphoriser l'acte de peindre. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est une façon de composer également, en tout cas il le souhaitait, des spectacles, et notamment sonorité jaune, 1909. Écoutez, c'était un reportage de France Culture en 1964, et vous allez peut-être les reconnaître, ceux qui disent ce texte, c'est Pascal Mazzotti et Michel Bouquet.
Premier tableau, à droite et à gauche du spectateur. La scène doit avoir ici la plus grande profondeur possible. Très loin au fond, une hauteur large et verte. Au-delà de la hauteur, le rideau, uni, mat, est d'un bleu profond.
Bientôt la musique commence, des cordes les plus hautes, subitement, elles tombent aux plus basses.
Au même moment, le bleu foncé envahit le fond de la scène, la musique l'accompagne. Sa bordure s'élargit, devient noire comme sur l'image.
Derrière la scène, on entend le chœur, inarticulé, sans expression, sec et mécanique. Quand le chœur se tait, silence général.
Ni mouvement.
Ni son.
Puis, l'obscurité. Ensuite, la même scène s'éclaire. De droite à gauche, cinq géants d'un jaune éclatant, le plus gros possible, sont poussés en avant. On dirait un vol plané au-dessus du sol. Ils restent au fond de la scène, debout l'un près de l'autre, une épaule remontée, l'autre basse, avec des visages étrangement jaunes et indistincts. Ils tournent la tête l'un vers l'autre, très lentement, et font des mouvements simples avec leurs bras.
La musique devient plus nette. Tout de suite après, le chant des géants, très profond, inarticulé, s'élève.
Ils s'approchent lentement de la rampe. De gauche à droite passe très vite un vol d'êtres rouges, indistincts, qui font penser un peu à des oiseaux. Ils ont de grosses têtes qui ressemblent vaguement à des têtes humaines.
La musique suit leur vol. Les géants chantent toujours, mais de plus en plus faiblement.
Tandis qu'ils s'effacent peu à peu. La hauteur grandit lentement. Sa couleur, de plus en plus claire, est enfin blanche. Le ciel s'assombrit et devient noir.
Derrière la scène, on entend le même chœur sec. Les géants se sont tus.
Alors ça défie un petit peu l'exercice de la description. Mais qu'est-ce que on a entendu, Olga Medvedkova?
On a entendu probablement la première tentative d'une création d'un spectacle abstrait, effectivement. Tous ces personnages, ils ont aucun caractère, aucun détail qui précise leur... Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de physique, il y a la couleur qui les définit. Il élabore ce spectacle avec son ami Hartmann, ce compositeur qui va écrire la musique pour ce spectacle. Ils s'enferment tous les deux dans les montagnes, dans les Alpes bavaroises, et ils rêvent de ce spectacle qui, finalement, tout comme la musique atonale de Schoenberg, qui est plutôt, c'est plus juste de l'appeler la musique dodécaphonique,
oui,
n'est-ce pas? Elle brise la syntaxe et elle introduit dans la perception de l'œuvre une nouvelle temporalité.
Alors ça, on va en parler, évidemment, cette science de... Si l'art est une science, c'est une science du temps. Mais restons toujours un peu dans ce milieu, parce que c'est fascinant. Donc Hartmann, c'est vraiment son ami. Hein.
C'est le seul qui le tutoie, parce que Kandinsky est très secret. Hein.
Il est ukrainien.
Il est ukrainien, oui.
Oui.
Il est ukrainien, oui.
Oui.
On galère un peu. Oui, Hartmann, il est important. pour
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment son ami. C'est celui qui, avec qui il travaille, notamment sur ses compositions scéniques. Donc, il y a là aussi, je rappelle, il y a 3 ans d'écriture pour la sonnetterie jaune. Donc, c'est vraiment l'œuvre, la production la plus marquante de ce qu'il appelle le Bühne Composition, donc les compositions scéniques. Et Hartmann, et il a encore des échanges juste avant le décès de Kandinsky en 1944. Dans la mémoire de Nina Kandinsky, sa veuve, on apprend qu'il y avait encore un projet d'une composition scénique, dans sa période parisienne. Donc Hartmann, c'est vraiment une figure essentielle qui introduit aussi Kandinsky auprès des musiciens comme Nicolas Kouïlbi, par exemple, russe, lors des voyages à Moscou.
Et puis c'est une figure aussi qui est importante, Olga Medvedkova, par sa conscience politique. Et ça permet aussi de compléter le portrait de groupe de Kandinsky à ce moment-là, avant-guerre, qui est d'abord, il faut le dire, et c'est fort bien rendu dans votre biographie, un intellectuel, un universitaire même. Il a fait une thèse en économie politique, il a fait de l'ethnologie, il a de hautes ambitions.
Il a passé quand même plus de 10 ans à étudier à l'université de Moscou, qui est la meilleure université du pays, à la faculté de droit, qui est une espèce d'école de haute école en sciences sociales. Et il apprend évidemment le droit, mais aussi l'anthropologie, il apprend l'ethnographie, il devient ethnographe sous l'influence de son ami Nicolas Karouzine. Et nous avons une source extraordinaire, c'est la correspondance de Kandinsky avec cet ami Karouzine. Et c'est une correspondance copieuse dévoile un Kandinsky jeune homme qu'on ne connaissait pas.
Oui.
Et en fait, c'est absolument extraordinaire parce que ce sont des textes qui sont écrits avant qu'il commence à construire son image d'artiste. Donc il y a une spontanéité extraordinaire qui nous permet de comprendre qui était Kandinsky. Et on apprend que réellement, c'était quelqu'un de très sensible, qui souffrait énormément d'un tas de choses qui, pour les autres, auraient passé inaperçues. Et il était réellement synesthésique. Il a eu plusieurs crises de nerfs pendant ses études. Il a dû partir. Et ces crises de nerfs, je pense, étaient liées au fait qu'il a chargé cette éducation, ces années d'études, cette carrière qu'il a choisie, d'un sens de devoir inouï. C'était une grosse pression pour lui, alors qu'il était passionné par la peinture, mais il était né, on dit toujours, il est né dans un milieu aisé. En fait, il est né dans un milieu extrêmement riche. Extrêmement riche, il a tout reçu, une culture extraordinaire. Il doit rendre ce qu'il a reçu.
Et avec cette question de la responsabilité morale, mais Angela Lampe, ce qui est intéressant effectivement quand on prend la mesure de cet intellectuel qui était Kandinsky et qui devient sur le tard un peintre professionnel, si on peut dire, c'est que il ne sera jamais un scientifique froid. En réalité, il ressent la sensation politique et émotionnelle d'un désir de connaissance. Et inversement, il sera toujours un artiste théoricien de son art.
Oui, c'est ce qui, je pense, qui distingue Kandinsky, c'est sa capacité justement de théoriser son approche, hein, c'est-à-dire son livre du spirituel dans l'art qu'il publie dans tout janvier 1912, qu'il écrit donc durant l'année 1911 qu'on a déjà évoqué, et voire même commencé avant. C'est vraiment quelqu'un qui a des capacités intellectuelles de transmettre et d'approfondir et d'expliquer et de rationaliser aussi plus tard dans d'autres publications sa démarche, hein. Ce qui aussi lui donner cette enfin ce qui aussi confirme, parce qu'on a commencé par ça, on parle toujours Kandinsky, c'est le père de l'abstraction. Aujourd'hui, mm-hmm. on sait qu'il y a d'autres mères aussi, donc on en parle un peu moins. Mais justement, cette considération, c'est aussi lié au fait qu'il a le plus publié et le plus théorisé ce que ça veut dire dépasser le mimétisme. Et il a établi même des systèmes de correspondance. On vient de parler de la synesthésie, c'est-à-dire il a établi
rapport système entre de les correspondance couleurs.
Entre les couleurs, le son, les différents affects humains, donc et tout cela, c'est vraiment très extrêmement singulier dans l'histoire de l'art.
Les rapports entre les couleurs et les sons, ben, Tiemoko les chante dans Artiste peintre en 2011.
Le pinceau se tenant pincé entre mes doigts, je me dois de peinturer des histoires du présent et du passé. Rire, amour et haine viennent s'y enlacer pour vivre des moments volés dans la vie de l'artiste que je suis. Rôle qui me suit comme mon nom et comme mon ombre, tous deux d'ailleurs en bonne santé. Dans le dessin de la vie, ce récit j'ai inventé. Faire parler ce que je dessine, c'est rendre les mots vifs et actifs, tournant sur une rythmique. Les mots forment des boucles continuelles, alignées comme des soldats, aucune lettre ne manque qu'à l'appel, elles font que je suis richissime. Ma plus grande des richesses reste l'esprit qui m'anime. Bienvenue dans ma pensée, vous voilà lancé pour croiser une exposition de rimes. Artiste peintre, dessinant des mots à l'aide du stylo. La vie est une peinture, c'est les mains philo. Laisse-moi la chanter après avoir fait danser le pinceau. Artiste peintre, dessinant des mots à l'aide du stylo. La vie est une peinture, c'est les mains philo. Laisse-moi la chanter après avoir fait danser le pinceau. Je retranscris sur feuille ce qu'il y a dans ma tête, poussant sur mes cordes vocales et mes lèvres avec style. Mes dessins sont racontés sur une rythmique, le ton est donné. Contre une bonne ambiance, cela se monnaie. Pour que ça pète, la formule tu la connais, connais. Ouais, un peu de ceci, un peu de cela, et l'énergie explose comme un coureur qui saute là. Et ainsi soit-il, la vie est pleine d'obstacles. Faut pas attendre d'aide, même après un tacle. Se plaindre, non, peindre, ouais. Rester figé comme une statue, non. Être actif pour obtenir un statut, ouais. D'artiste reconnu, ouais, 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 ouais. Quoi que tu fasses, mets de la gouache, crée l'effet du smash pour avoir de l'impact dans tes actes. Artiste, peintre, ayou, dessinant des mots à l'aide du stylo. La vie est une peinture, c'est les mains philo. Laisse-moi la chanter après avoir fait danser le pinceau. Artiste, peintre, ayou, dessinant des mots à l'aide du stylo. La vie est une peinture, c'est les mains philo. Laisse-moi la chanter après avoir fait danser le pinceau. Je m'approprie les mots auxquels je donne forme et couleur. Je me fais plaisir et fais en sorte que le public soit conquis sur un style rap soul funky. Gémo, original, MC, compris. Discussion avec le papier, ma feuille est sans silence. Mes dessins comblent les sauts que sur le mur je lance. Le destin de mon stylo, c'est dessiner des mots. Ma plume vole vers le haut pour lâcher une pluie de mots. Dans ce semblant de poésie, plus de gaieté que de mélancolie, c'est ainsi. Ma vie est celle d'un riche pauvre, voulant appauvrir sa pauvreté sur Zigroove. Je fais confiance à mon étoile, expose mes toiles. Regarde si ça te charme, écoute si ça te parle. Stylo quatre couleurs, à chacun ses armes. Je rappe pas pour des couleurs, mais plutôt pour des armes. Artiste, peintre, ayou, dessinant des mots à l'aide du stylo. La vie est une peinture, c'est les mains philo. Laisse-moi la chanter après avoir fait danser le pinceau. Artiste, peintre, ayou, dessinant des mots à l'aide du stylo. La vie est une peinture, c'est les mains philo. Laisse-moi la chanter après avoir fait danser le pinceau.
Vous écoutez Allons-y voir et on essaye de définir en somme l'abstraction de Vassili Kandinsky au-delà des idées un peu reçues qu'on peut justement en avoir. D'abord, si on lit Les Marches, on se rend compte, ça vient de paraître aux éditions Verdier, de quelle puissance poétique son art est empreint. Mais vous avez publié, Olga Medvedkova, ses écrits sur l'art aux presses du Réel, et il faut dire aussi combien ses écrits, de manière tout à fait exceptionnelle, eh bien, sont justement porteurs de cette ambition théorique qui est celui de ce grand intellectuel qu'était Kandinsky.
Je pense que Kandinsky est unique dans l'histoire de l'art et on peut le comparer peut-être seulement avec Alberti qui a fait aussi des très longues études humanistes et aussi des études de droit et après il abandonne cette carrière
en Italie du 15e siècle.
Voilà, en Italie du 15e siècle et il abandonne cette carrière intellectuelle au profit de sa carrière d'artiste parce que à un moment donné, il comprend tout comme Kandinsky, que finalement la science n'est pas supérieure à l'art, non pas pour le savoir du monde, mais pour, pas pour le Wissenschaft, mais pour la compréhension, le Bedeutung. C'est la compréhension du monde qu'il veut. Et parmi l'une des raisons qui l'ont poussé à abandonner sa carrière intellectuelle, il cite un événement qui se produit dans le domaine de la science. C'est la découverte, c'est ouais. Henri Becquerel. Mmh. C'est la même date que Lohengrin à Moscou, que l'émeule de foin de Monet et que ses prières presque devant les Rembrandt à l'Ermitage.
Oui, ça c'est très intéressant, Angela Lampe, parce que effectivement, c'est ce que vous donnez à voir dans l'exposition du Centre Beaubourg et de la Philharmonie de Paris, Kandinsky, la musique des couleurs, c'est que si l'art est la science de quelque chose, c'est la science du temps. Et donc, c'est ce qui est en jeu dans ce rapport synesthésique entre les couleurs et les sons, c'est le temps.
Oui, c'est le temps, mais c'est aussi la... Enfin, on a parlé de synesthésie, mais le temps devient essentiel pour les compositions scéniques, parce que c'est là où la couleur devient lumière et devient donc une lumière, devient donc c'est vraiment partie d'une scénographie et il y aura une certaine durée dans cette composition scénique dont Kandinsky a réalisé donc il a réalisé une mise en scène en 1928 à Dessau, donc c'est pas ses propres compositions, mais c'est pour une œuvre pour de Modeste Moussorgski, le tableau d'une exposition, et Kandinsky réalise une mise en scène dont on montre d'ailleurs un élément de décor d'une reproduction ultérieure dans les années 1980. Mais c'est à ces moments-là, Kandinsky réalise des dessins préparatoires et il arrive vraiment justement de maîtriser plus cet élément temporel dans cette mise en scène avec l'entrée des personnages, avec toute une partition qui fait annoter avec les éléments lumineux qui doivent arriver à un certain moment de la partition et c'est là je trouve l'élément temporel devient vraiment très 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 perceptible.
Oui, mais alors dit ainsi Olga Medvedeva, c'est-à-dire au fond définir l'abstraction comme la couleur qui est et s'échappe de l'objet et qui, d'une certaine manière, abolit le motif, revient à dire qu'il n'y a plus d'iconographie chez Kandinsky depuis, justement, cette rupture qu'on aurait un peu abruptement posée en 1911. Ceci est le premier tableau abstrait. Mais c'est pas tout à fait vrai.
C'est d'ailleurs, pas tout à fait
si
vrai.
On reprend ce tableau sur lequel je commençais, un tableau avec un cercle, tenez, je vous le donne, on voit des choses malgré tout.
Bien sûr qu'on voit les choses, et bien sûr que cette abstraction n'est pas complètement abstraite. Il faut dire qu'en langue russe, il y a deux mots pour dire abstraction. Et Kandinsky les utilise tous les deux. C'est abstraktny, le premier, et le deuxième, c'est отвлечённый. Mmh. C'est éloigné, c'est l'éloignement qu'il prône en réalité. C'est pas l'abstraction. L'abstraction, dans ses écrits scientifiques, est un terme qui est négatif. La science abstraite est une science purement théorique qui crée des modèles du monde qui sont complètement en rupture avec le monde. Hein, c'est ça qui est important. Kandinsky ne rompt jamais le monde.
Et c'est ça qui est fondamental.
Il met le monde à distance. Il prône l'éloignement, le détachement. Il prône en fait l'époque avant la lettre. Il prône cette suspension qui permet une réflexion approfondie, une méditation sur le monde qui permet de comprendre ce qui se passe.
Et c'est pour
ça, c'est très important.
Oui, c'est très important parce que on saisit comment, au fond, cette abstraction, très émotionnellement ressentie, ne désarme en rien sa volonté farouche d'engagement politique.
En rien du tout, au contraire. Et les tableaux de Kandinsky appellent à un regard lent, tout comme la poésie de Mallarmé ou de Rimbaud, tout comme la musique de Schoenberg. C'est là cette temporalité lente. Il casse la syntaxe, il casse la logique, qu'il connaît pourtant tellement bien, qu'il maîtrise tellement brillamment, c'est un nom brillant, mais il met tout ça, il suspend, il met à distance tout cela, il rompt les liens pour que la compréhension devienne lente et les retrouver. Quoi ? Une longue pause. Quoi ? L'éternité.
Bah, en effet, c'est la temporalité, c'est dans la lenteur qui est très importante dans ces compositions. Il y a toujours des abréviations de figuratifs, donc ce sont vraiment des compositions hybrides. Et c'est aussi, pour moi, c'est pas aussi un acte d'émancipation du spectateur ou du regardeur, pour employer une notion de Duchamp, c'est-à-dire de se plonger dans cette libération des formes et des couleurs. Donc c'est un acte émancipateur, Kandinsky cherche et il fait donc où il appelle aussi à cette grande époque de l'époque de la spiritualité, mais qui pour lui aussi liée justement à cette monde utopique d'une monde qui brise un peu les lois de tout système autoritaire, parce que les systèmes tonal donc que Schoenberg brise avec sa musique et c'est vraiment pour lui vraiment une parallèle. Il voit vraiment là une affinité avec sa propre volonté de briser la figuration qui habituelle jusqu'à ces moments.
C'était aussi vrai chez Hartmann, et c'est là où le rapport entre la concordance des couleurs et les dissonances politiques d'un spectacle sonorité jaune qui était anarchiste, d'une certaine manière, se révèle à nous. Écoutez, ce qu'on a compris par la suite, Olivier Messiaen, sur la couleur de la musique, c'était sur France Culture en 1966.
Si les sons colorent les durées, c'est qu'ils sont pour moi liés à la couleur par de secrètes correspondances. Lorsque j'entends et même lorsque je lis de la musique, je vois intérieurement des couleurs merveilleuses qui se mélangent comme les combinaisons de sons qui bougent et tournent avec les sons. Par exemple, tel ensemble d'accords est rouge taché de bleu, tel autre est blanc laiteux orné d'oranger ourlé d'or, tel autre usera du vert, de l'oranger, du violet en bandes parallèles, tel autre sera gris pâle avec des reflets verts et violets, tel autre sera franchement violet ou franchement rouge. Il y aura aussi des couleurs complémentaires, des contrastes simultanés par résonance, des couleurs dégradées vers le blanc, rabattues par le noir, des accords et des timbres aux couleurs chaudes ou froides. Un autre peintre qui a joué un rôle dans mon évolution musicale, c'est Kandinsky. J'ai précisément en ce moment sous les yeux un extraordinaire tableau de Kandinsky qui s'appelle « Fugue » et dans lequel les mouvements circulaires du haut du tableau ont pour réponse les mouvements en pointe du bas du tableau, avec une sorte d'ébullition au centre, le tout étant taché ici et là de bleu et de rouge, selon la méthode des grands maîtres verriers du Moyen-Âge.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Olga Medvedkova, donc je vous rappelle que vous avez écrit ce beau livre Kandinsky, Corps et âme, paru chez Flammarion en 2025. Vous y décrivez effectivement cette manière qu'a eu Kandinsky de faire de la peinture musicalement, ça on l'a compris, mais de faire de cette musique des couleurs une intervention au monde. Et ça se donne à voir dans différentes œuvres. Par exemple, vous aviez envie de nous parler de quel tableau ?
Je voudrais présenter ce fixé sous verre.
Oui.
C'est une technique très particulière qui découvre à Murnau, dans les Alpes bavaroises, où il achète une maison. Et,
donc c'est la peinture en fait, sous verre, ça veut dire qu'on peut peindre à l'envers, en fait.
Oui,
hein, c'est ça.
C'est une peinture à l'envers qui abolit la perspective.
Oui.
Et c'est un geste qui est comparable avec l'abolition de la musique tonale par Schoenberg. C'est-à-dire qu'on commence par le fond et on avance progressivement vers la surface que va recevoir le spectateur. Ça permet de brouiller les plans. Et dans ce fixé sous verre qui s'appelle Toussaint, en réalité, on voit une barque qui amène les saints vers par un chemin qui est marqué par une ligne noire, toujours ce noir qui est pour lui comme un point de départ, évidemment, qui évoque la peur, cette enfance,
peur du noir,
cette peur que vous avez évoquée, oui, cette peur d'abandon qui a eu lieu effectivement, cette peur du néant, en fait. C'est un être, on comprend par ses écrits, par sa poésie aussi, c'est un merveilleux poète. On comprend, c'est quelqu'un qui est extrêmement conscient de lui-même et de sa finitude. C'est quelqu'un qui est constamment conscient de l'érosion du monde. Il a besoin d'appeler cette énergie, energia vitale, pour comme transfigurer le monde. Et on voit ces saints qui sont transfigurés, qui avancent par ce sentier noir vers une merveilleuse ville sur la montagne qui est la Jérusalem céleste. On comprend seulement après une longue observation qu'il s'agit en fait d'une scène d'Apocalypse. Et c'est là qu'on voit l'ange qui annonce donc le jour dernier en soufflant dans cette trompette. Et c'est extraordinaire qu'on ne voit pas d'abord cet ange. C'est-à-dire que la peinture de Kandinsky est toujours à propos de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. La peinture qui est figurative, elle nomme l'objet, elle le représente bien sûr, mais dans notre tête, on le nomme, et dès qu'on est nommé, on l'a assassiné. Il finit d'être, alors que la peinture de Kandinsky ne finit jamais.
Vous connaissez très certainement Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création du Centre Beaubourg. Il va nous envoyer là, je crois, sa première carte postale de l'année, et il est question à la fois de peur, de gouffre, de barque et d'un danger qu'on ne voit pas, mais qu'on entend.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, depuis 1911, on sait avec Kandinsky que, je cite, « le bleu clair sonne comme une flûte, le bleu foncé comme un violoncelle ». Mais réciproquement, depuis 1975, il est difficile d'ignorer que l'alternance répétée d'un mi et d'un fa, luit faiblement comme une surface bleue nuit, éclaboussée de ridules plus claires, éclat que disperse autour d'elle la silhouette d'une nageuse dont le corps s'interpose entre la lune et l'objectif qui la suit par-dessous. À l'oreille, ce sont deux notes, jouées sans véritable tonalité et pour lesquelles le compositeur aurait, dit-on, mobilisé ensemble six contrebasses, huit violoncelles, quatre trombones et un tuba. Jouées de plus en plus rapidement, selon un procédé déjà éprouvé par Dvorak, ce mi-fa, 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 précipitera dans un instant l'affolement de l'image, la multiplication des plans cadrés cette fois au ras de l'eau pour en saisir le bouillonnement et la panique de la jeune femme, jusqu'à ce que la surface se referme sur elle, ne laissant retentir dans le silence revenu que le tintement grêle d'une cloche, la cloche d'une bouée à laquelle elle avait tenté un instant de s'agripper. Qu'est-ce que le cinéma doit à la musique ? En 1946, le critique André Bazin formulait à propos des rapports entre cinéma et peinture une hypothèse historique très générale. Selon lui, les nouveaux procédés d'enregistrement du réel, la photographie, le cinéma, auraient en quelque sorte rendu possible l'abstraction picturale. par la perfection même de leur reproduction du monde. En prenant sur elle la tâche de sauver les apparences, la pellicule aurait libéré les peintres de l'obsession représentative. Cette thèse, qui établit entre cinéma et peinture un jeu de vases communicants, ne suffit pas à comprendre comment l'art dit abstrait s'est adossé à d'autres arts, à la musique avant tout, pour renouveler entièrement son expressivité. Mais en décrivant les choses ainsi, Bazin fait aussi peu de cas du corps à corps dans lequel le cinéma se trouve très tôt pris avec la musique et ses puissances non figuratives. En réalité, dès l'âge du muet, une conversation se cherche entre ces deux arts du temps. Je ne parle pas là seulement du cinéma abstrait, que formalisent en Italie dès 1912 les futuristes Bruno Corra et Arnaldo Ginna, mais par exemple, je parle des catalogues de Mood Music, édités dans les mêmes années 1910 par les studios. Catalogues où segments d'action cinématographique et pièces du répertoire suggérées aux orchestres sont classés par tonalité émotionnelle et dont la table des matières se lit comme un poème. Écoutez. Ambiance. A. Catastrophe, variété diverse. B. Très dramatique, agitato. C. Atmosphère solennelle, mystère de la nature. Action. A. Nuit, atmosphère sinistre. B. Nuit, atmosphère menaçante. C. Folie, agitato. D. Magie, apparition. E. Péripétie, quelque chose va arriver. Alors, sans doute ne s'agit-il encore dans ces catalogues que d'aménager les correspondances extérieures entre des musiques déjà écrites et des images déjà tournées. Ce qui s'annonce pourtant dans cette litanie d'affects, c'est l'immense champ des collaborations entre musiciens et réalisateurs, dégageant un plan commun au son et aux images, et comme une part abstraite au sein même du cinéma narratif, des violons de Bernard Herrmann déchirant le rideau de douche de Psychose, aux cadences suspensives de Johnny Greenwood, ondulant comme la route du dernier film de Paul Thomas Anderson. En passant par ce mi-fa, de John Williams qui fend l'image comme un aileron, quelque chose va arriver, dont le propre est de se tenir sous le seuil du visible. Vous ferez attention en vous baignant, Patrick, quelque chose m'a mordillé l'orteil.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent, une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Qui rendent les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Tout
Johann Papa Constantino qui chantait en 2019 Les mots bleus. Bonjour Pierre Saint-Garavelou, qu'est-ce que vous allez nous chanter? On me dit que dans l'oreillette que c'est un vieux tube de Roger Caillois.
Oui, je veux vous parler de Roger Caillois, qui est un intellectuel original, doté d'une érudition tentaculaire, et qui a théorisé, dans les années 1960, une nouvelle discipline, les sciences diagonales. Il part du constat que les disciplines sont trop cloisonnées, alors que c'est précisément le croisement des savoirs qui permet de mieux comprendre l'homme et son environnement. Caillois élabore une méthode de pensée transversale qui trace des lignes de jonction entre des domaines apparemment sans rapport, par exemple la biologie, l'art, la physique ou encore les jeux, des jonctions qui doivent révéler les lois universelles ou les structures communes de toute création, qu'elles soient naturelles ou bien sonores et visuelles. Il faut selon lui rechercher des homologies, des formes, des rythmes, des comportements qui se ressemblent et qui constitueraient une grammaire commune permettant de retrouver l'unité du monde. Alors cela résonne fortement avec la synesthésie supposée de Kandinsky qui cherchait avant lui.
C'est pour ça que vous nous en parlez d'ailleurs.
Bien sûr, une diagonale entre vibrations lumineuses et ondes sonores. Et vous pouvez découvrir en ce moment à Paris, la principale source d'inspiration de sa pensée et en même temps la traduction concrète de ses réflexions dans l'exposition conçue par François Farge, intitulée « Rêverie de Pierre, poésie et minéraux de Roger Caillois », une exposition à l'école des arts joailliers dont l'entrée est gratuite et qui donne à voir sa collection d'agate, d'onyx, de jaspe, de septaria, etc.
Alors Olga Matveïkova nous parlait d'Alberti, en cela d'ailleurs Caillois aussi s'inspire des humanistes de la Renaissance italienne.
Oui, il s'intéresse en particulier aux paésines, les pierres calcaires de Toscane, sur lesquelles on peut reconnaître des villes avec des tours majestueuses ou encore des cités en ruines. Ces marbres paysagers illustrent parfaitement la méthode de Léonard de Vinci dans son traité de la peinture, où il invite les artistes à exercer leur imagination en contemplant les taches et les lézardes d'un mur. « Tu y trouveras, écrit-il, l'analogie de paysage au décor de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toutes sortes. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complétée. » Et au XVIe siècle, les peintres toscans ont prolongé l'intuition de Léonard en se spécialisant dans la peinture sur pierre. Considérant que la nature offre des esquisses aux artistes, ils utilisent les veines naturelles de la paésine comme un décor qu'ils peuplent de personnages.
Alors Roger Caillois interroge également les liens entre le peintre et la nature artiste pour, et là encore, ça nous rappelle Kandinsky, formuler une critique de l'art contemporain.
Oui, il écrit précisément au moment où la peinture abandonne la figuration et où l'art abstrait et conceptuel prend son essor. Il relativise par exemple le geste de Marcel Duchamp et l'invention du ready-made dans l'entre-deux-guerres en écrivant plus tard, en 1959, qu'au XIXe siècle en Chine, il est arrivé que des artistes, au lieu de peindre, se soient contentés de découper des plaques de marbre, de les encadrer, de leur donner un titre, de les signer et de les proposer ainsi au public comme s'il s'agissait de véritables tableaux. En fait, Roger Caillois s'identifie aux lettrés et artistes chinois de la dynastie Song, comme Mifu du XIe siècle, qui lui aussi décrit sa quête de pierres fabuleuses comme une sorte de vagabondage spirituel. Le savant français, à l'écriture élégante, presque minérale, est persuadé que les artistes n'inventent rien. Ils ne font que redécouvrir des structures déjà présentes dans l'univers. Natura petrix, la nature est artiste. Voilà le décentrement radical auquel nous convie Caillois, qui rompt avec l'anthropocentrisme dominant.
Alors, on vous connaît et on vous apprécie aussi pour ça, pour votre mauvaise humeur. Pierre Saint-Garavelou, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose dans cette exposition qui a pu ternir votre enthousiasme, non ?
Oui, la magnifique collection de Roger Caillois est aujourd'hui conservée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ces minéraux proviennent du monde entier et la provenance, lorsqu'on la connaît, est discrètement mentionnée sur les cartels. Mais rien n'est précisé sur le lieu et les conditions d'extraction de ces pierres. Cette question est d'autant plus intéressante que Roger Caillois, qui cherche la faille, l'accident géologique, s'oppose à la logique extractiviste en prêtant attention aux pierres imparfaites, aux pierres qui ont été précisément rejetées par l'industrie joaillière. Ces minéraux viennent en grande partie du Brésil et plus largement d'Amérique latine où Roger Caillois a vécu plus de 5 ans, en l'occurrence en Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'absence de contextualisation devient manifeste lorsqu'en se promenant dans l'exposition accueillie par l'hôtel de Mercier-Argenteau, on découvre au plafond les blasons des grands pays d'Amérique latine. Mmh. Parce qu'il s'agit en fait de la salle des fêtes conçue en 1890 comme une sublime vitrine de l'industrie sud-américaine, car cet hôtel particulier accueillait à cette époque l'Union latine franco-américaine qui réunissait les plus grands négociants français, les plus riches représentants de la communauté latino résidant à Paris à la Belle Époque. Ce lieu d'exposition, tout sauf anodin, nous rappelle que ces minéraux à l'esthétique extraordinaire, qui datent de 25 millions d'années pour les paésines, à 3 milliards d'années pour le jaspe à hématite, eh bien ces minéraux possèdent aussi une histoire contemporaine.
Merci Pierre Saint-Garvelou, c'est intéressant, Angela Lampe évidemment, parce que, bah d'abord parce que Kandinsky s'est inspiré lui parfois des minéraux et aussi avait toute cette culture visuelle qu'il le branchait au monde, à l'ensemble du monde et que vous allez donner à voir dans l'exposition de l'AM à Villeneuve-d'Ascq à partir du 20 février.
Tout à fait. Ce qu'on va révéler, c'est son iconothèque. Kandinsky a établi quand il était au Bauhaus à Dessau. Donc, il a découpé dans les revues illustrées, des nouvelles revues illustrées des années 20, des photos, voilà, des minéraux, mais aussi des paysages, des coiffes, des vues d'en haut, des machines aussi, enfin, des donc toutes sortes de photographies qu'il a donc découpé, ensuite collé sur les cartons et il a présenté aux étudiants. Donc et à partir de là, justement, il cherchait à avoir vraiment une sorte de science universelle. Donc oui. Essayer d'établir des parallèles, mais plutôt formels, dirais-je, par rapport à la structuration, je sais pas, des verticales, des horizontales. Et tout cet matériau, on va donc révéler pour la première fois vraiment de façon très importante dans l'exposition à Villeneuve-d'Ascq.
Vous disiez justement que l'abstraction était une abréviation et voilà, on comprend aussi que Kandinsky cherchait à rendre compte d'un abrégé du monde qui est aussi également Olga Medvedeva, un souci du monde. C'est-à-dire que cet engagement, on peut y revenir, et notamment pendant le Bauhaus, il est constant dans sa vie. C'est un engagement politique.
Il nous donne une véritable leçon de vie dans la manière de réfléchir, de vouloir comprendre à chaque fois, en mettant à distance le monde, en mettant le monde en suspens. Il tente une compréhension profonde, c'est-à-dire ce qu'il appelle une méditation du monde, et qui est tout à fait comparable avec la méditation qui fait partie de l'humanisme de la Renaissance. Méditation qu'il a appris aussi beaucoup avec Rudolf Steiner, oui, qui était l'un de ses maîtres. Et c'est seulement en méditant le monde, lentement, c'est cette lenteur qu'on abandonne aujourd'hui, en se privant de cette subjectivité intelligente, mais aussi de cette capacité de prendre notre propre décision face au monde. Et c'est cette leçon, je pense. Moi, je tire cette leçon de l'œuvre et de la vie de Kandinsky. Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. To my head, I don't care, I paint the town red.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Angela Lampe, Olga Medvedeva et Pierre Saint-Garvelou. Les références de vos livres, de vos parutions, des expositions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Jean-Guilain Meige, à la réalisation Sam Basquiat. Merci à vous toutes et tous. Just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalty.
penalties. Bitch, I'm in your shit if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Mmm, she the devil. She a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Mmm, she the devil. She a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said pop, make money, now you try, bitch. You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't knew I'd win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extremists are. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead.